Salut à toutes et à tous, vous êtes de retour dans l'émission Acide sur Radio Campus Tours avec Quentin et Marc. C'est toujours un plaisir de prendre le micro pour tenter de dissoudre les stéréotypes sur l'art contemporain. Gros programme ce soir, on ne va plus parler de Dati cette fois, on parlera du RN et de son programme pour la culture et Quentin reviendra sur les expos qu'il a vues. De quoi vas-tu nous parler Quentin ?
Oui, aujourd'hui on parlera ensemble, on voyagera ensemble à Majorque. Je vous parlerai peinture et architecture avec la découverte d'une exposition au musée d'art moderne et contemporain S. Baluard, avant de revenir en Touraine pour vous présenter la sortie de résidence d'une artiste récemment diplômée de l'école des beaux-arts de Tours.
En deuxième partie d'émission, nous recevrons sur le plateau d'Acide Marianita Gaube, artiste plasticienne basée à Saint-Pierre-des-Corps, pour une interview sur son travail et sur la condition d'artiste en France. Commençons tout de suite avec une bonne ou une mauvaise nouvelle. Les aventures de Dati ne sont pas certaines de continuer. En effet, elle a perdu son job à la rue de Valois après la dissolution de l'Assemblée nationale au début du mois. Néanmoins, elle sait toujours faire parler d'elle. En effet, elle est fragilisée encore une fois dans son affaire avec Renault-Nissan. Sa défense a été invalidée par plusieurs témoignages. Tout ça grâce au travail de la cellule Investigation de Radio France, qui a fait ses révélations le 20 juin dernier. C'est sans doute pour cela qu'elle était emportée, même remontée, lors de son interview au micro de la matinale de France Inter la semaine dernière. Il y a eu en effet pas mal de remous politiques depuis les élections européennes, et le parti qui arrive en tête dans les sondages, c'est le Rassemblement National. Je me suis intéressé à la place qu'avait la culture en général et l'art contemporain dans leur programme et dans leurs considérations. Mardi 18 juin, Libération a sorti un gros dossier sur l'impasse culture de l'extrême droite, du nom du titre de l'édition. Bien sûr, on se doute bien qu'un parti créé par des nazis a du mal à apprécier l'art. Lorsque nous parlons de culture, eux sont obsédés par le mot patrimoine, terme qui était en majesté dans leur programme de 2022 pour les présidentielles. Je cite « Le patrimoine est notre histoire pétrifiée, oui le mot fait peur, au sens premier du terme, il tient une place majeure dans le redressement moral du pays. » Voilà, on dit des mots n'importe comment. Pour eux, seul leur patrimoine idéalisé, antique et chrétien devrait exister dans l'espace public au détriment de la création contemporaine. À Bruay-la-Buissière, ville frontiste depuis 2020 dirigée par Ludovic Pajot, il est difficile pour les journalistes, de recueillir les témoignages des acteurs culturels de la ville tant le climat est tendu. S'il y a un désaccord ou une critique dans leurs propos, ils peuvent voir leurs subventions baisser et même supprimer. Cette ambiance semble généralisée dans les villes détenues par le Rassemblement National. C'est la même rengaine à Perpignan, avec Louis Alliot, où les artistes évoluent dans un climat de méfiance, comme le rappelle un témoignage dans Libé. Moi, j'ai voulu m'intéresser à la vision du Rassemblement National sur l'art contemporain, et je suis tombé sur deux articles sur la page officielle du parti qui donnent le tempo sur leur aversion pour l'art contemporain. Aurélien Legrand, conseiller Rassemblement National d'Île-de-France, dénonce dans un article le nouvel art officiel. Pour lui, la commande publique et les subventions à la création artistique se concentrent sur une portion très restreinte, et clairement identifiable de la création contemporaine, qui l'identifie comme les héritiers de Marcel Duchamp et du mouvement Dada. Donc, au RN, on décide de ne même pas s'informer sur les courants qui ont traversé notre pays, ceux qui ont fait le rayonnement de la France à une époque, et de chier sur l'histoire artistique française pour convenir à leurs idées nauséabondes. Son mépris dans cet article va encore plus loin, il va même jusqu'à douter de la technique de Picasso, artiste ayant dénoncé par ailleurs le fascisme dans son pays, en le comparant à Michel-Ange, un artiste figuratif donc. Donc Aurélien Legrand est aussi nostalgique de la figuration, nous faisant presque croire qu'il existe un art dégénéré pour eux. Ce qu'on retient sur toutes ces lignes, c'est surtout la référence exclusive à l'antique, aux chrétiens et à l'historique, comme il dit, histoire qui doit sans doute pour eux se terminer à la Révolution française. Il nous explique que le spectateur, lorsqu'il observe une œuvre contemporaine, n'a plus besoin de prérequis pour comprendre l'œuvre. Or, c'est faux. Un artiste évolue dans une société, dans un contexte, dans des groupes sociaux, a des expériences personnelles, et cela forge son art. Pour comprendre cela, il faut s'y intéresser, il faut partager son temps pour la création contemporaine, il faut s'ouvrir à l'œuvre, à l'artiste, à ce qu'il veut transmettre. L'art et son appréciation, c'est une question de subjectivité. Alors quand M. Legrand dit, en parlant du programme de son parti, « à cette condition seulement, il sera possible de renouer avec une certaine logique du beau », ça n'a pas de sens. L'homme est libre d'apprécier ou non l'art qu'il a en face de lui, Mais rien ne devrait freiner ou brider la création contemporaine, quelle qu'elle soit. Alors oui, je reprendrai les mots du Rassemblement National cette fois, oui, les artistes resteront fidèles à leur héritage contemporain et garantiront à la France de rester la grande nation des arts qu'elle est et qu'elle a toujours été. Fermons cette parenthèse politique, allons vers quelque chose de plus tendre. Quentin, je te laisse la parole pour ta chronique.
Merci Marc. Direction Palma, sur l'île de Majorque, en Espagne, où son musée d'art moderne et contemporain, connu sous le nom Es Baluar, m'a particulièrement intéressé. Construit par quatre architectes que sont Luis García Ruiz, Jaume García Ruiz, Vicente Tomás et Ángel Sánchez, il s'intègre parfaitement à l'ancienne muraille défensive de la ville. D'une superficie de 5000 m², dont 2500 sont consacrés aux espaces d'exposition, il se compose de plusieurs niveaux d'élévation aux lignes épurées et aux formes géométriques simples. Ici encore, le béton prime et fusionne avec la pierre existante. Le dialogue entre l'architecture contemporaine du nouveau bâtiment et l'ancien mur est constant. Le projet vise à intégrer la construction moderne et à l'ancien mur et à respecter, excusez-moi, le patrimoine ancien des murs. Et c'est pourquoi les matériaux comme le béton et le verre sont utilisés, permettant de distinguer parfaitement les deux types de construction. Une des parties les plus intéressantes de cette visite a lieu sur la terrasse, où il est possible de profiter d'une vue époustouflante, sorte de panorama gigantesque sur la ville et la mer. La collection du musée se compose de plus de 780 œuvres, de la fin du 19e siècle à nos jours, mais cette partie n'était pas accessible le jour où j'y suis allé, laissant place aux expositions temporaires, dont celle de Katia Merowski, artiste allemande, née en 1920, décédée en 2012, dont l'exposition « L'action rouge et la membrane », visible depuis la fin du mois de mai, propose un regard critique sur l'œuvre et la vie de cet artiste exceptionnel, mais pourtant si peu étudié et connu. L'exposition présente une sélection de peintures, dessins, collages réalisés entre les années 1940 et 2000, qui reflètent une vie marquée par de nombreuses tragédies. Élevée par une mère juive et un père communiste, elle étudie la peinture à l'Université des Arts de Berlin entre 1938 et 42. Membre du mouvement de résistance Rote Kapelle, l'Orchestre Rouge, qui a aidé les Juifs et d'autres personnes fuyant le régime nazi, elle est recherchée par la Gestapo et se cache en Pologne, pendant la guerre bien sûr, avant de retourner à Berlin en 1945. En 1949, elle fonde le cabaret d'artistes dit Badevane, la baignoire, un centre d'expérimentation qui s'inspire de la littérature surréaliste et de l'art moderne persécuté et censuré par les nazis. Motivée principalement par l'envie de recommencer une nouvelle vie, de se libérer du poids d'un passé angoissé et violent, Katia Merowski et son mari, Karl, s'installent en 1952 à Ibiza. Elle a presque cherché à se distancer des conventions qui dominaient l'art de son époque. On pourrait dire qu'elle peignait à travers un processus d'élimination en distillant des formes générales, en un geste pour éviter les rigueurs du cubisme, pour se distancer du surréalisme et de l'expressionnisme, de ce qui dominait le marché de l'art d'après-guerre. Bien que son travail ait été exposé en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays européens, son œuvre a reçu peu d'attention historique et critique. Cette exposition adopte une nouvelle approche, une nouvelle perspective pour transmettre l'œuvre de toute une vie, qui s'est étendue jusqu'au XXIe siècle. Ce projet vise donc à explorer les raisons derrière la fascination que son travail inspire aujourd'hui. D'une part, elle a suivi la ligne des artistes d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle, et d'autre part, sa recherche constante de l'originalité l'a amenée à explorer des chemins visuels qui allaient dans la direction opposée au courant et au mode dominant. Pour reprendre les mots du poète espagnol Antonio Colinas, son grand ami, son œuvre est sage, tant dans la paix que dans les menaces. Il y a une sérénité métaphysique énorme et un sentiment d'agression, une provocation inévitable imposée par le sentiment de catastrophe dans l'époque où nous vivons. L'exposition est visible jusqu'au 25 août 2024. Petit bond géographique à présent pour nous diriger à Mode d'emploi, un lieu qui accueille des artistes en résidence, de recherche, de création, au sein des pavillons d'octroi de la ville de Tours, place Choiseul, non loin du pont Wilson. Jusqu'à la fin du mois, c'est la sortie de résidence « Mordre le silence » de l'artiste Anna Martinelli-Soncarieux qui est présentée. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Tours en 2023, elle vit et travaille à Tours. Dans le cadre de ce projet, c'est la question de la prédation qui est le fil rouge de son travail, comprenant les thématiques autour de la chasse, qu'elles soient animales ou humaines, et des dynamiques de domination à l'égard des femmes et des enfants, notamment. À partir de ses lectures, notamment celle de Dorothée Ducy, anthropologue et spécialiste des questions liées à l'inceste, Anna s'est particulièrement intéressée à la notion de l'intermédiaire, la personne de la famille qui sait mais qui ne dit rien, participant à cet acte de domination. En découle la notion de silence, d'où le titre « Mordre le silence ». D'ailleurs, l'intermédiaire est tout aussi présent pour la chasse animale, hein, par le biais des chiens et des chevaux, ou pour la chasse à l'homme et aux esclaves par le biais d'autres esclaves ou des mercenaires de l'armée. Nous voici totalement plongés dans un environnement étonnant où sont visibles installations sculpturales ou petits objets tout autour de nous. Des morts à cheval retravaillés, ces outils qui entravent la parole, la bouche, qui dirigent l'animal et peut-être gênants à porter, voire douloureux. Des colliers de chiens anti-loups protégeant des morsures les loups qui sautent à la gorge. Il est donc question de protection, mais aussi de contraintes. Les sculptures en caoutchouc noir, agrémentées de chaînes, sont autant de références animales. Les chambres à air sont découpées, cousues entre elles, pour donner la forme d'une peau de bête ou d'une langue. On y découvre également des morceaux de carcasses de véhicules, qui rappellent l'idée de la monture, transformée pour donner la forme d'une mâchoire, d'une canine. Et on reste dans une thématique buccale, d'ailleurs, en adéquation avec le titre, bien sûr. L'esthétique générale des différentes sculptures n'est pas sans rappeler les objets utilisés dans l'art du BDSM, en ne gardant ici que la notion de soumission ou de douleur, en omettant celle en lien avec la préférence ou l'acte sexuel en lui-même. Je vous invite fortement à aller découvrir Mordre le silence, qui renferme d'autres créations que je n'ai pas évoquées pour vous laisser la surprise. De plus, vous pourrez rencontrer Anna Martinelli-Soncarieux au CCCOD, dans le cadre d'une conférence sur cette restitution de résidence, le jeudi 4 juillet à 18h, gratuitement et sans réservation.
Merci Quentin, je vois que le temps file. Petite pause musicale, on vous propose d'écouter Dr Brenner, DJ Tourangeau avec son titre BBAO. Down. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours 99.5 FM dans l'émission Acide. Nous venons d'écouter Dr Brenner, DJ Tourangeau avec son titre Bébéo. Nous retrouvons pour notre interview Marianita Gaube, artiste plasticienne et amie à nous. Marianita, comment vas-tu ?
Très bien, et vous ?
Très très bien.
Merci pour l'accueil.
Alors, on est heureux de t'avoir sur le plateau.
Marianita, tu es diplômée de l'École des Beaux-Arts de Lyon en 2012 et tu as déjà exposé un peu partout, notamment au CCCOD où nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps. Dernièrement, tu as été lauréate du prix Schneider, qui t'a notamment permis d'exposer, et récemment à la Fondation François Schneider à Wattwiller, non loin de Mulhouse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée cette expérience ?
Donc du prix,
Oui, du prix et est-ce que tu as réalisé des créations pour cette nouvelle exposition ? Est-ce que tu as présenté des œuvres que tu avais déjà créées auparavant ? Et quelle a été personnellement cette expérience pour toi ?
Oui, alors en fait, la Fondation Schneider, c'est une fondation qui propose chaque année un appel à candidature auprès d'artistes de médiums complètement différents. Donc il y a autant de la peinture, de la photo, de la vidéo, de l'installation, et toujours autour du thème de l'eau. Donc là, en fait, j'ai une toile qui a été sélectionnée, qui était d'ailleurs une des toiles qui était exposée au CCCOD. Et pour l'occasion, j'ai créé aussi une grande toile libre où j'ai expérimenté en fait des découpes sur toile libre, donc qui sont, je vais pas tout dévoiler, mais du coup on a vraiment l'impression d'un flottement avec des personnages en fait qui sont fixés sur la toile mais qui flottent. Donc on est vraiment dans un petit théâtre et c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, en fait, aussi de sortir du format classique du châssis, de la toile, et essayer de déployer. Alors, il y a encore un long chemin pour y arriver jusqu'au bout, mais vraiment déployer, en fait, ces figures aussi dans l'espace, peut-être, et même imaginer, peut-être, à l'avenir, de collaborer avec des chorégraphes, des danseurs qui pourraient porter certaines peintures et d'imaginer peut-être aussi qu'il y ait du son, qu'il puisse...
Une mise en espace.
Ouais. Mais step by step.
Oui, cette création,
voilà,
du coup...
On peut parler d'un collage, en fait. Ouais. Un petit peu, c'est quelque chose, de toute façon, qui est récurrent dans mon travail.
Okay.
Notamment avec le dessin, mais là, qui commence à arriver avec la toile.
Ok, donc ça, c'était quelque chose de totalement différent et nouveau, en tout cas nouveau pour cette exposition à Wattwiller.
Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité et de la prochaine exposition qui sera visible dans très très peu de temps, puisqu'il me semble que le vernissage, c'est vendredi qui arrive.
Tout à fait. Alors, mon actualité, je fais un petit bond en arrière. J'ai une exposition collective au Musée d'art contemporain de Lyon en ce moment sur le thème de l'amitié et de l'amour. J'ai une exposition qui débute avec l'artiste Michel Katz au Centre d'art Le Garage à Amboise, qui débutera vendredi prochain. Donc le vernissage est à 18h. Bien sûr, il est ouvert au public. Et voilà, c'est une exposition qui s'appelle Rencontre et qui met en dialogue mon travail à celui d'une autre femme artiste qui a 88 ans.
D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, une rencontre deux personnes, une exposition à deux voix ?
Non.
Ok, c'est quelque chose, c'est quelque chose
non,
de totalement
c'est la première fois. Okay. Ouais.
Super. Donc, qu'est-ce que le visiteur peut attendre s'il connaît déjà ton travail pour cette exposition ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, que des nouveautés, ou est-ce qu'il y aura des créations déjà expérimentées ?
Alors, là, il y aura des travaux qui vont de 2022 à 2024. Dans les dernières toiles, effectivement, il y a cette volonté de continuer à explorer ce collage ou ce montage en peinture, comme j'expliquais un petit peu avant avec les premiers essais qui avaient été faits à la Fondation Schneider. Et il y a, dans le travail de Michel Katz, il y a vraiment un travail très frontal autour du corps, qu'on va retrouver aussi, il y avait cette volonté aussi de travailler autour du corps pour cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même deux univers qui sont assez différents, mais on a toutes les deux une manière d'aborder le corps, et en particulier là dans mes dernières peintures, beaucoup plus frontale par rapport à avant. Et Si, on peut parler de... Enfin, les tableaux deviennent de plus en plus vivants. Il y a aussi quelque chose du volume qu'on va retrouver qu'il n'y avait pas avant. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon travail de dessin et de collage, bah, finalement, c'est une continuité de ce travail-là, mais qui se déploie vraiment à échelle 1, parce que je travaille très souvent sur très grand format. Donc là, on pourra vraiment aborder des scènes, des théâtres, avec des éléments de volume aussi qui se détachent de la toile.
Ok. Oui, parce qu'effectivement, chez Michel Katz, on est dans la représentation corporelle et presque par le corps, je crois.
Oui,
et
puis, c'est des empreintes de corps.
Effectivement, dans ton travail, on retrouve...
C'est du happening.
Oui, c'est ça. Et dans ton travail, on retrouve des personnages. Et j'ai souvenir de cette dernière création que tu terminais de réaliser en ayant visité ton atelier, où il y a cette composition d'un bleu assez profond. On voyait en premier plan un personnage affublé d'un slip de bain. Et j'aurais voulu savoir si elle était présente, justement, cette composition qui m'avait particulièrement touchée.
Elle est présente. C'est une grande toile qui fait 2 mètres et quelques par 3 mètres 50 et qui est assez représentative de mon travail. Alors, dans celle-ci, c'est une des seules où il n'y a pas de collage, justement.
D'accord.
Qu'est-ce que je peux dire sur cette peinture ?
On est dans un monde totalement onirique.
C'est bah voilà, comme toujours, en fait, je pense, mon travail parle d'utopie. C'est toujours entre le rêve et le politique. Il y a vraiment cette volonté aussi de parler de l'homme et de son rapport à la nature. Il y a souvent des rituels qui sont inventés, qui s'inspirent de rituels qui existent. Et par les temps qui courent, je pense que c'est d'autant plus important de continuer à essayer de parler de ça, de parler de magie et d'essayer d'apporter du rêve, même si c'est pas toujours facile. Et en tout cas, enfin voilà, ça parle aussi de la mort, de notre rapport au monde et même, enfin en fait, quand je parle du rapport qu'on a avec la nature, ça va au-delà de ça en fait, enfin. Du rapport qu'il y a à l'humain, par exemple la toile qui avait été présentée à la Fondation Schneider, qui sera présente également à l'exposition au garage, parce que pour moi elle fait sens justement par rapport à mes recherches actuelles. C'est une toile qui parle d'un enterrement et voilà, enfin justement des cycles. Enfin il y a quelque chose de très primaire entre guillemets, mais qui pour moi, je pense en fait, est hyper important et c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu dans nos sociétés. Donc je pense que l'art est aussi un biais pour parler ça, quoi.
Et en tant qu'artiste, avec la conjoncture politique actuelle, tu te sens comment dans ta recherche et en tant que personne aussi?
Inquiète, c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit. Inquiète, effectivement, parce que je pense que la culture est en danger, que l'expression et le droit de dire ce qu'on pense, enfin voilà, enfin, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Marc, enfin, on n'a pas envie de tomber dans un art nazi. Bon. Et non, je pense que la culture est clairement en danger et j'ai très peur du tournant que tout cela peut prendre. Mais on va tous aller aux urnes ce week-end et le 7 juillet. Puis bah, on espère que...
Oui, même chez Acide, voilà. On pousse les gens à aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Car c'est ça, la démocratie.
Voilà, parce qu'il faut sauver la France, il faut sauver la culture, il faut sauver la santé, l'éducation, tout ça.
Et moi, j'aimerais revenir sur ton travail. En tant que commun des mortels, c'est vrai qu'on a un peu de mal à connaître les coulisses chez les artistes. Toi, comment tu travailles et comment tu gagnes ton pain?
Alors, comment je travaille? Je vais souvent commencer par des travaux préparatoires. Enfin, ça, c'est plus récent. Effectivement, il y a un travail de dessin, de collage, comme je disais tout à l'heure. J'ai une idée, je sais que, enfin, en fait, je me fabrique plein de petites histoires et je suis toujours inspirée par ce qui se passe dans le monde. En fait, je parle du monde comme je le disais. Et Et après, voilà, je vais créer des utopies ou des hétérotopies, terme que j'utilise d'ailleurs un peu plus souvent, qui est donc une utopie réelle, qui est un terme de Michel Foucault. Je vous invite à aller d'ailleurs explorer le terme d'hétérotopie. Petite pub pour Michel Foucault. Et donc ensuite, bah, y a, en fait, quand on travaille, c'est, je trouve qu'en peinture, il y a vraiment quelque chose où aussi, il y a quelque chose qui nous échappe dans le processus. Et c'est aussi ce qui fait la magie de ce médium. C'est que, moi, je sais que je vais commencer une toile. J'ai une idée toujours assez précise de l'image que j'ai en tête. Et en fait, bah, on commence. Je commence par un fond, souvent, par une couleur qui va en fait être une